Chers amis des cellules, bonjour. En cette période compliquée de confinement et de suspension des célébrations publiques, pour nous aider à avancer dans le chemin de notre foi, je vous propose que nous méditions aujourd'hui sur un extrait de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 21. Ils nous aideront à réfléchir à la question « Notre temps est-il mauvais ? Est-ce qu'un chrétien a le droit de dire ça ?» Et si tel est le cas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vous lis ces versets. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensés, mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Fin de la citation. Alors, notre temps est-il mauvais? A-t-on le droit de le dire? Eh bien, nous voyons d'après ce texte que l'Écriture ne se prive pas parfois pour dire que les temps que traverse le peuple de Dieu sont mauvais. Nous pouvons dire que ces temps où une épidémie nous frappe, même si elle n'est pas excessivement mortelle, sont des temps mauvais. Que ces temps où nous sommes confinés, où nous ne pouvons pas avoir des relations normales les uns avec les autres, sont mauvais. Que ces temps où nous ne pouvons pas nous rassembler librement pour avoir part à l'Eucharistie du Seigneur, sont des temps mauvais. Il y a une vraie difficulté qui peut être reconnue. Ce n'est pas être un mauvais chrétien que de dire « la situation que nous traversons est une situation qui est difficile, qui est lourde, quand bien même elle est moins lourde que si nous avions des bombardements et que si nous étions envahis par des troupes armées, comme ce fut le cas par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand bien même le tragique n'a pas atteint ce point-là, nos temps sont mauvais par rapport au temps que nous avons connu précédemment. Cependant, si le texte de saint Paul permet de qualifier ainsi nos temps de temps mauvais, il invite à une conduite particulière, à une conduite pleine de sagesse, non pas celle d'insensés, non pas celle de gens inconsidérés, mais de gens sages, capables de voir quelle est la volonté du Seigneur. Et du coup, il met en garde contre un premier écueil, « Ne vous enivrez pas de vin ». Ce n'est pas que la communauté des Éphésiens était une communauté d'alcooliques, mais c'est que dans l'épreuve, il y a toujours la tentation de fuir l'épreuve, de trouver une compensation, une espèce de porte qui nous permettrait d'échapper à la lourdeur de la réalité. Or, l'alcool et son ivresse peuvent sembler être une porte. Cependant, bien loin d'être une porte de secours, c'est un piège. Le soulagement, la joie même, est à chercher non pas dans l'alcool, mais dans l'Esprit Saint. Cherchez dans l'Esprit votre plénitude. On se souviendra que l'on disait des apôtres après la Pentecôte, les gens les voyant parler, annoncer les merveilles de Dieu, disaient « mais ils sont pleins de vin doux ». C'est ce que, dans les premiers siècles, les pères de l'Église ont appelé la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Alors, ne nous perdons pas dans le piège de l'alcool, mais allons rechercher cette sobre ivresse de l'Esprit Saint, qui est à la fois réconfort et source de joie. Comprenons aussi que la fuite dans l'alcool a ses équivalents contemporains. On peut s'enfuir de la réalité dans les réseaux sociaux. On peut s'enfuir de la réalité en faisant une overdose de séries. Le texte de saint Paul nous met donc en garde contre ces fuites qui, bien loin d'ouvrir une porte véritable, se transforment en piège et en addiction. Par ailleurs, la mention de « sachez voir quelle est la volonté du Seigneur » signifie qu'il y a toujours une volonté du Seigneur à discerner, qu'elle est toujours discernable, qu'elle peut toujours être mise en pratique. Et cela doit nous garder du désespoir et du découragement. Je suis frappé par certains articles dans la presse qui parlent de avoir 20 ans au temps du confinement et qui manifestent le désappointement de ces jeunes dont la vie étudiante n'a que peu de rapport avec celle qu'ont connue leurs prédécesseurs immédiats. On le dit surtout pour les étudiants, mais on pourrait le dire pour tous les âges. Hein. C'est le confinement lorsqu'on est dans la force de l'âge, ou le confinement lorsqu'on est à la retraite, met à terre beaucoup de projets que l'on pouvait avoir, projets de voyage, ou de possibilités, possibilités de rencontres, de visites. Par l'accumulation de ce type de récits, au-delà de la légitime manifestation du désappointement, il y a une partie qui est légitime, on risque de se complaire dans cette déprime, une déprime qui naît de l'absence d'espérance. Je rappelle que l'espérance, pour le chrétien, c'est le partage de la vie éternelle avec Dieu, c'est la divinisation. Or, si nous n'avons comme horizon que cette vie-là va ressembler effectivement simplement à un sablier qui s'écoule. L'objectif de notre vie, si elle n'est qu'un sablier qui s'écoule et qui va donc être vide un jour, alors l'objectif de notre vie ne peut être que de jouir au maximum jusqu'au moment où le sablier sera vide, où le mécanisme de notre corps s'arrêtera. Évidemment, dans ce cas, chaque seconde où je ne suis pas en état de bien-être ou de jouissance est un temps perdu, est un temps gâché. Mais voilà que l'espérance chrétienne nous donne un autre horizon. L'horizon chrétien n'est pas le maximum de bien-être, le maximum de jouissance ou d'être zen à tout moment. L'espérance chrétienne est la capacité à vivre de l'amour, à se savoir aimer et à aimer. Parce que l'horizon chrétien est la capacité à aimer, cet horizon reste valide aussi dans les périodes troublées, aussi au cœur des temps mauvais. C'est pourquoi saint Paul peut dire « tirer un bon parti de la période présente ». Cette formule peut sembler paradoxale. On pourrait lui dire « mais comment voulez-vous qu'on tire un bon parti d'un temps mauvais ? Comment peut-on tirer quelque chose de bon d'un temps mauvais ?» Parce que le Christ est vainqueur, parce que le Christ est ressuscité, on rend grâce parce que le Christ est vainqueur du péché et de la mort. Et donc, parce que à travers le Christ, par lui, avec lui et en lui, il y a une fécondité véritable à donner à notre vie, à trouver dans notre vie. Les temps mauvais ne rendent pas stériles ou infécondes nos vies si elles sont unies à celles du Christ. Quand saint Paul dit « en tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ », cette dernière partie est essentielle, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas ce « au nom de notre Seigneur Jésus-Christ », il ne serait pas possible en tout temps et à tout propos de rendre grâce à Dieu le Père. Car nous dirions « mais nous sommes confrontés à la mort, nous sommes confrontés à la maladie, nous sommes confrontés à la fragilité » et qui apparaissent comme des échecs de nos capacités, qui apparaissent comme des échecs de nos projets. Mais unis au Christ, mort et ressuscité, voilà que nos vies, nos projets retrouvent une capacité d'être féconds dans l'amour. C'est pour cela que le Christ insiste dans l'Évangile, par exemple en saint Matthieu au chapitre 10, les versets 38 et 39, « Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Et il le répète encore plus tard au chapitre 16, au verset 24, 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Parce que Jésus, par l'histoire de sa mort et de sa résurrection, transfigure notre histoire humaine, il devient possible de rendre grâce à Dieu le Père, car tous les épisodes de notre vie peuvent recevoir de lui une fécondité. même les croix qui alourdissent notre vie, lorsque nous les assumons et lorsque nous les lions à la croix du Christ, lorsque nous les portons à la suite du Christ, elles aussi portent un fruit de fécondité, elles aussi peuvent porter un fruit de salut. Par la mort et la résurrection de Jésus, notre vie n'est plus simplement une espèce de petit sablier qui s'écoule à la mesure de notre vie biologique. Notre vie sur cette terre, pour reprendre cette analogie un peu commune, est comme le temps que nous passons dans le ventre de notre mère. C'est une partie de notre existence, mais une petite partie par rapport à toute notre vie. Le temps de notre vie sur cette terre est comme la gestation de notre vie éternelle. L'évaluation de la bonté de notre vie ne se fait donc pas simplement à l'aune des projets que nous avons menés à bien, mais à l'aune de l'amour que nous avons vécu, à l'aune de l'amour que nous avons vécu jusque dans les périodes de croix. Passons, parce que le Seigneur se tient à nos côtés, de la logique du « je souffre, donc je déprime » à la logique du « je souffre et donc avec toi, Seigneur, j'offre. Avec toi, Seigneur, j'offre par amour. Avec toi, Seigneur, je fais de ma souffrance une offrande d'amour. Ma patience est mise à l'épreuve, Seigneur, je l'offre sur ta croix. J'ai tenu, Seigneur, sois béni. J'ai réussi à prendre ou à donner des nouvelles d'une personne fragile ou isolée, Seigneur, sois béni. J'avais du mal à tenir un rythme de prière dans ces temps bousculés et je l'ai remis en place, Seigneur, sois béni. J'ai eu un coup de déprime, je me suis trouvé dans la détresse, je me suis trouvé face à la tentation du découragement, et j'ai dit, Seigneur, je m'unis à ta passion. Seigneur, toi qui as donné une fécondité à ta croix, donne une fécondité à ma croix de ce jour. J'ai eu la tentation de dire, ma vie vraiment ne vaut rien, et je me suis souvenu, Seigneur, que tu m'appelais à la vie éternelle, et que si je faisais de ce moment une offrande d'amour, il porterait du fruit. Seigneur, je te bénis. Chers amis des cellules, ayons confiance que notre vie, saisie par le Christ, donnera son fruit, manifestera sa beauté. Un peu comme ces jardins qui, vus du sol, sont un labyrinthe où on a l'impression de se perdre, mais qui, vus du ciel, vus avec un peu de hauteur, dessinent pourtant un merveilleux motif. Telle sera notre vie révélée si elle a été offerte avec la passion du Christ pour porter du fruit. Chers amis du Cellule, je vous souhaite de bons échanges.